Voyons maintenant la question des droits des associés. Pourquoi est-ce que l'on entre en société? Eh bien, parce que l'on espère jouir d'un certain nombre de droits. Ce sont ces droits que nous allons voir maintenant avec toi, Alain Courret, donc professeur à l'Université Paris 1, avocat associé. Nous allons voir ces différents droits des associés. Nous allons les voir les uns après les autres. Ce sont les principaux droits des associés. Nous allons donner un aperçu de chacun de ces droits. Premier droit qui n'est pas le plus essentiel, on ne vient pas en société pour ce droit-là, mais droit qui est très important pour le fonctionnement des autres droits de l'associé, c'est le droit d'information. Alors droit d'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'associé doit recevoir ou pouvoir demander en cours de vie sociale aux dirigeants, aux organes de la société, eh bien, des informations sur le déroulement des activités de la société. Il prend quelle forme, Alain, ce droit d'information, notamment?
Je crois qu'il faut distinguer un petit peu selon le type de société et plus généralement, si on voulait peut-être simplifier à l'extrême, selon la taille de la société. Parce qu'il est évident que lorsque la société est une société cotée sur un marché réglementé aujourd'hui, ce droit à l'information prend des visages multiples parce que la transparence du marché est fondamentale et que c'est un peu l'investisseur qui se cache derrière l'associé. Et c'est un peu vers l'investisseur que l'on va essayer, c'est vers lui que l'on va se tourner pour parler. Dans des sociétés de taille plus restreinte, il va s'agir surtout de l'envoi de documents ou de la possibilité d'ailleurs d'accéder à ces documents ou à certaines informations si cette information n'est pas envoyée, ce qui est souvent le cas. Et la tendance générale a été quand même de permettre à un associé qui ne reçoit pas l'information d'obtenir des moyens pour contraindre la société à les lui fournir. Je crois que c'est quand même la tendance qui se dessine depuis des années et qui est tout à fait logique d'ailleurs.
D'accord. Donc droit d'information qui va permettre à l'associé notamment d'aller en assemblée, lorsqu'il y a une assemblée, de participer à l'assemblée, de voter. Ça, c'est un autre droit très important, alors qui est un droit essentiel, le droit de participer aux décisions collectives et de voter. C'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, ce droit de participer aux décisions collectives et le droit de vote. Ce sont deux facettes, mais alors comment est-ce qu'on peut les distinguer? La question n'est pas facile, j'en conviens.
La question n'est pas vraiment facile parce que la Cour de cassation, depuis 1994, a rappelé en fait un article du Code civil. Elle ne fait que reprendre ce qui est dit dans le Code au départ, que chaque associé a le droit de participer.
C'est l'article 1844, alinéa 1er.
Voilà. Donc, participer, ce n'est pas voter, ce n'est pas nécessairement voter. Et la Cour de cassation a dit ensuite que tout associé a le droit de voter et qu'on ne peut pas retirer ce droit à un associé.
Dans un cas qui n'est pas prévu par la loi.
Dans un cas que la loi n'a pas expressément prévu. Voilà un petit peu les principes de base en ce domaine. Maintenant, les questions sont innombrables parce que participer à l'Assemblée, cela veut dire quoi? Avoir le droit de rentrer, oui, probablement, parce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui n'a pas le droit de vote, enfin, on doit imaginer d'ailleurs que quelqu'un qui n'a pas le droit de vote va pouvoir se rendre à l'Assemblée. Mais est-ce que cela veut dire qu'il va s'asseoir passivement sur une chaise en attendant que ça se passe? Ou est-ce que ça veut dire qu'il peut prendre part au débat? Et il est probable qu'il doit pouvoir prendre part au débat. Mais s'il prend part au débat, est-ce qu'il n'influence pas d'une certaine manière le vote collectif? Et est-ce que sans avoir lui-même le droit de vote, il ne retrouve pas au travers de ce pouvoir d'influence quelque chose qui y ressemble? Et là, la Cour n'est pas bavarde sur le sujet. On n'a jamais véritablement su, lorsqu'était retiré le droit de vote, si ce retrait impliquait également le droit de participer au débat. C'est une des zones un peu obscures de notre droit.
L'idée, donc, c'est bien que participer aux décisions collectives, je participe à la discussion qui précède le moment où on va voter.
Probablement.
Et ensuite, droit de vote, là, on peut comptabiliser mes actions, mes parts, mes droits de vote, pour savoir si la décision emporte la majorité ou non. Et quelqu'un qui aurait On parlera sans doute des actions de préférence sans droit de vote. Quelqu'un qui aurait des actions qui, de par la loi, sont privées du droit de vote, aurait quand même le droit de participer aux décisions collectives, donc de venir, pour ne pas voter, mais de venir participer à la discussion qui précède. Autre droit important, le droit au bénéfice ou le droit à profiter d'une économie. C'est pour cela que l'associé vient en société. C'est son premier droit. On va en parler rapidement ici. Droit qui prend la forme, si on prend le droit au bénéfice, qui prend la forme particulièrement de quoi ? D'une distribution de dividendes en cours de vie sociale. On constate que la société a réalisé un bénéfice et on va voter une distribution de tout ou partie de ce bénéfice aux associés. Et enfin, de vie sociale. Lorsqu'on dissout la société, on va à ce moment-là constater que il y a encore les apports, donc on va restituer les apports ou une valeur équivalente aux associés. Et ce qu'il y a en plus, c'est du bénéfice qui n'avait pas été distribué, ce qu'on appelle le boni de liquidation, et que l'on va attribuer aux associés. Et dernier droit qui va nous retenir, droit de céder ou de ne pas céder ses titres. Alors, c'est un droit qui est compliqué parce qu'il est double. Droit de céder, je peux vendre mes parts ou mes actions et finalement je peux me faire remplacer par quelqu'un dans la société, sous certaines réserves. Est-ce que je peux entrer en société et finalement mettre quelqu'un à ma place ?
Oui, Bruno, si, je voudrais revenir une seconde, si c'est possible, bien sûr, sur le droit aux dividendes. Pour apporter deux précisions qui me paraissent importantes.
Bien sûr.
D'abord, le droit aux dividendes paraît le droit le plus irréductible, parce que le droit de vote, même si la Cour de cassation y est attachée, peut être supprimé par la loi. Et il est souvent supprimé par la loi dans des cas où l'on veut sanctionner des comportements ou on considère qu'il y a conflit d'intérêts. Donc c'est peut-être le droit le plus irréductible, le droit au bénéfice. Deuxième précision, contrairement à ce que d'aucuns pensent, il n'y a pas de véritable droit aux dividendes, parce que encore faut-il avoir réalisé un bénéfice. Et l'associé ne peut pas exiger d'être rémunéré si ce bénéfice n'est pas réalisé ou si collectivement l'attribution ne se fait pas. Sur maintenant le droit de demeurer associé, en quelque sorte.
Droit de céder et de ne pas céder.
Voilà, le droit de céder ou de ne pas céder. Il faut quand même distinguer selon les formes sociales. Historiquement, il y avait des sociétés dites de personnes qui n'autorisaient pas facilement le transfert des titres. C'était les sociétés en nom collectif. Plus généralement, les sociétés en commandite simple pour les commandités. Et puis on avait des sociétés comme la société anonyme, société par action, dont les titres étaient faciles à céder. La distinction aujourd'hui, elle n'a qu'une efficacité moyenne, parce que d'abord, les sociétés anonymes peuvent être fermées par des clauses d'agrément, et puis la SAS, qui est un peu la dernière apparue dans les grandes formes sociales, est une société qui peut être verrouillée, avec notamment des clauses qui interdisent l'aliénation pendant 10 ans. Et donc, on voit bien que là, la distinction classique société de personnes, société de capitaux est devenue aujourd'hui en très grande partie théorique.
Alors, on a le droit de céder, mais des clauses particulières peuvent paralyser ce droit pendant jusqu'à 10 ans dans les SAS.
Et peut-être beaucoup plus dans les sociétés anonymes, d'ailleurs.
Peut-être plus dans d'autres sociétés. Et par ailleurs, si je veux céder à une personne déterminée, dans certains cas, la société, s'il y a une clause dite clause d'agrément, la société peut me dire que je n'ai pas le droit de céder à cette personne, avec la plupart du temps, dans ce cas-là, l'obligation de racheter ou de me faire racheter mes parts, parce qu'il y a aussi un droit dont on parle souvent, qui est celui de ne pas rester prisonnier de ses titres. Bien.
Tout à fait.
Merci Alain.